affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Nous allons commencer une émission d'hiver. Paris est engourdi par le froid et par la grève. Du coup, nous avons envie de vous réconforter en vous promettant de vous emmener vers d'autres rives, plus précisément vers Haïti, avec une émission gorgée de soleil, de fruits jutés, de cuisine épicée, de tableaux colorés, le tout en compagnie de l'écrivain Dany Laferrière de l'Académie française, qui vient justement de publier un ouvrage titré « Vers d'autres rives ». Mais de la sorte, je vous mentirai, car en réalité, Dany Laferrière va nous emmener bien plus loin. À Montréal, même à Miami, mais surtout il va nous emmener au-delà de la géographie, dans des contrées que l'on atteint que par la force de l'esprit et la magie des mots. Nous allons entamer un voyage intérieur dans lequel les sensations, les idées, les couleurs, les sentiments compte autant que les lieux. Et pour commencer ce voyage, nous avons remercié Dany Laferrière de nous avoir rejoint malgré cette grève. Monsieur, bonjour. Merci d'avoir traversé Paris dans le froid et la grisaille.
Dans le froid. Je viens de Montréal. Il faudra me donner du monsieur en question de froid.
Très bien, nous voilà rassurés. Cet ouvrage, bien sûr, s'inscrit dans la continuité du précédent, dont vous avez déjà entretenu, Autoportrait de Paris avec chat. Je dis qu'il s'inscrit dans ce cadre, car il est une sorte d'autobiographie, quand même.
Du point de vue formel, c'est-à-dire et le fait voilà. Que j'ai écrit à la main, j'ai fait des dessins, mais sinon, c'est totalement dans mes œuvres. J'ai toujours parlé de Petit Gouave, j'ai toujours évoqué mon enfance, et aussi les peintres, que ce soit des peintres d'Haïti, les peintres primitifs, ou bien les peintres comme Matisse, qui sont des peintres que j'aime beaucoup.
Alors pourquoi le choix de ce choix formel, d'ailleurs ?
Je ne sais pas pourquoi, c'est arrivé, j'étais très très fatigué, c'est un choix né de la fatigue, et j'ai compris que pour m'extraire le plus fortement de cette vie quotidienne si chargée, et il fallait me concentrer, et le dessin permet de se concentrer, surtout quand on ne sait pas dessiner à ce moment-là, au tout début. Donc il faut se concentrer, et j'aime bien les couleurs, et c'est là que j'ai compris la gravité des enfants qui sont en train de colorier, de faire du dessin, de mettre des couleurs. Ils ont sur ce visage ce calme. Finalement, ça rend serein.
Alors, l'enfance, justement, le dessin, effectivement, c'est un mode d'expression spontané chez les enfants. L'ouvrage s'ouvre sur votre enfance et la relation que vous avez avec votre grand-mère. Ce qui est le cas d'ailleurs de beaucoup d'enfants. Il y a un lien particulier entre les enfants et
les grands-parents. C'est les extrêmes. C'est parce que les enfants sont des philosophes. C'est-à-dire, les grands-parents aussi. Pour moi, un philosophe, c'est quelqu'un qui a du temps, qui dispose de son temps. Et si on est talonné par la matérialité de la vie, on peut bien philosopher. Mais on n'a pas de temps à soi et pour prendre distance avec le monde. C'est pour cela que les petits-enfants, ils ont toujours un rapport direct avec leurs grands-parents. Ces deux extrêmes-là possèdent le temps. Ils ne comptent
pas. Ils ne sont pas esclaves du temps.
Non, ils ne sont pas esclaves du temps. C'est ça, le philosophe est un être libre. Et les professeurs de philosophie ou même les philosophes officiels n'ont pas cette possibilité de disposer d'un temps indéfini qu'ont les grands-parents et les enfants. Donc ce sont les vrais philosophes.
Alors votre grand-mère, parlons d'elle quand même, c'est aussi un sacré tempérament, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'assez contemplatif, non ?
Oui, c'est quelqu'un qui ne bouge pas, mais elle m'avait dit quand même une fois que je lui faisais, et enfin je la questionnais à propos de cette immobilité mythologique, puisque toute la ville est au courant que Dan ne bouge pas de sa galerie, elle m'avait dit oui, c'est pas toujours, la sagesse n'en est pas toujours la cause. Souvent, c'est des problèmes de sciatique. C'est le temps qui fait ses ravages dans le corps et qui vous empêche de bouger. Et le cerveau qui est devenu un ami et qui vous dit, si vous ne bougez pas, ça ne veut pas dire que vous vieillissez, ça veut dire que vous êtes devenu plus intelligent. Vous pouvez observer les gens, vous les regardez. Il paraît, et d'après ce qu'elle m'a confié, que notre cerveau nous accompagne un ami jusqu'au bout. Chaque fois que nous ne pouvons pas réaliser quelque chose, il nous explique que ce n'est pas du tout une défaite, au contraire, c'est une conquête.
Alors votre grand-mère transformait la sciatique en une opportunité de contemplation, d'observation et de méditation aussi. On a l'impression que c'est votre façon de procéder. Vous transformez systématiquement le banal en original, le plomb en or, ou plutôt en art. L'ensemble de votre œuvre, mais particulièrement cet ouvrage-ci, des choses auxquelles on ne prête plus attention, prennent de nouvelles couleurs sous votre regard.
Mais je suis émerveillé. Et c'est la chose qui me change. Je me souviens de cette phrase d'Adrien, il dit « cette chose aimait à arriver ». C'est la chose elle-même qui me change. J'ai passé une enfance fiévreuse. Donc, je n'étais pas souvent à l'école. J'étais toujours avec ma grand-mère. Donc, j'ai appris à observer les fourmis, à observer les gens qui passent. Et les gens passaient devant sa maison parce qu'ils savaient aussi qu'elle avait un bon café qu'elle offrait aux gens et qui passent. Et en retour, ils lui donnaient une bonne conversation et ils lui racontaient leur vie quotidienne. Donc, pour moi, les histoires de grand-mère, c'était pas du tout des histoires, des contes de fées ou des fables. C'était la vie quotidienne. Et j'aimais bien. Et quand elle me racontait des histoires qui se terminaient peut-être en une fable que je comprendrais des années plus tard, en disant simplement, tu vois cet homme qui vient de passer là, il n'a pas toujours été comme ça. Et là, ma curiosité est piquée. Qui était-il? Comment était-il? Que faisait-il?
Et là, il ne reste plus qu'à écrire son histoire, alors.
Des années plus tard, oui. J'ai fait L'odeur du café, qui raconte mon enfance avec ma grand-mère, parce que je voulais la voir sur la page. Et quelques années après sa mort, j'ai fait Le charme des après-midi sans fin, parce que je voulais la revoir.
Vous savez ce que disait Jacques Brel? J'ai pensé alors que vous évoquiez L'odeur du café. On lui demandait quel était son pays. Il disait, dans le corridor de ma grand-mère, ça sentait la confiture. C'est oui. Ça, mon pays, c'est l'odeur de cette confiture.
Oui, c'est vrai que l'odorat est le sens le plus rapide. Il ne passe même pas par le cerveau. Et il entre directement. Et donc, c'est celui qui a la plus longue mémoire. Et c'est pour ça qu'on peut remonter facilement à une vitesse folle, supersonique, et en humant quelque chose qui nous rappelle notre enfance, et notre enfance nous envahit. Mais moi, je suis tissé d'enfance, donc j'ai pas besoin de...
On guérit pas de son enfance.
Non, en fait, pas moi.
Dans ces leçons de vie données par votre grand-mère, il y a cette capacité à accueillir les choses. Il y a un moment où donc c'est la première histoire qui ouvre l'ouvrage d'ailleurs. Elle confectionne une soupe dans une grande marmite et en fait au fil du récit on se rend compte que ne viendra dans cette soupe que les choses qui arriveront d'elles-mêmes comme une offrande spontanée de l'environnement et de ses amitiés non prévues et qui finissent dans cette marmite. Vous terminez en disant « Il faut faire confiance à cette chose qui aime arriver. Bon appétit. »
Tout à fait. Mais c'est une leçon d'écriture. C'est comme ça qu'on écrit. Il faut faire confiance à l'imaginaire, il faut faire confiance à la poésie, à la surprise. C'est pas une volonté. C'est une confiance. Donc pour moi, c'est extrêmement important de me remémorer ces leçons d'écriture. Et ça se poursuit aussi, simplement en la regardant, converser avec les gens et qui viennent, qui lui parlent. Et c'est là que j'ai appris à faire les dialogues et à comprendre aussi que le narrateur est immobile. Et le narrateur ne bouge pas de l'endroit où il se tient dans le livre. C'est le seul dont on doit se rappeler, dont on sait à tout moment où il est, le narrateur. Il est là. Dès que le chapitre commence, il dit « je viens d'arriver » ou « je m'en vais ». On est toujours avec lui, il est toujours tout près. Et ce narrateur de mon enfance, c'est une narratrice. C'est ma grand-mère qui s'abreuvait, disons, dont le carburant était le café. Pour moi, plus tard, ce sera l'encre.
Dans le chapitre suivant, c'est le monde végétal. J'y pense parce que la capacité de l'enfant aussi à être, vous disiez, en contact direct avec le monde. Le monde végétal et le monde animal sont très présents dans l'ouvrage. Mais là où je viens des choses plus sérieuses, et moi, je vais vous dire la façon dont je l'ai compris. C'est-à-dire qu'on part de l'enfance où vous êtes, vous, petit enfant, en contact direct avec ce monde-là, animal, végétal, très matériel, sensoriel. Et ensuite, on se dirige vers la découverte de l'art, les peintres, les premiers actes d'écriture de votre part. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que finalement, grandir, c'est se détacher de ce contact immédiat avec la beauté et être forcé de recourir à des médiations pour retrouver ces émotions initial. Est-ce que je délire complètement ou il y a de ça ?
Non, vous dites ce que nous tous vivons et c'est comme cela, ça c'est en dehors de nous, encore une fois il n'y a pas de volonté dans cela, c'est ce qui nous arrive et on peut l'oublier, et c'est dommage, et cette beauté qui s'était infiltrée en nous de façon si naturelle, puisque nous sommes une merveille, et aussi une des merveilles de la nature, c'est une forme de grande camaraderie qui se fait entre les paysages, les visages, et les animaux, le mouvement du monde. Et là, je suis passé par cette relation naturelle avec cette beauté pour arriver à la forme sublimée, c'est-à-dire la peinture et l'écriture, et qui est une sorte de mémoire de la beauté.
Il y a un passage qui s'appelle « Les mains nues ». Vous semblez déplorer de ne plus avoir planté d'arbres depuis votre enfance.
C'est vrai, parce que les rares fois maintenant, aujourd'hui, où je vais dans un jardin, où je mets ma main à la terre, je ressens immédiatement un tel calme, un tel, j'ai l'impression que mes mains sont faites pour cela. Et est-ce une raison peut-être que j'ai repris possession de ma main en écrivant à la main ces jours-ci et en dessinant. Et je n'ai plus voulu lâcher la main. Et j'écris et je dessine à la main depuis, c'est le deuxième, je viens de terminer un nouveau livre, écrit à la main encore, et je ne veux plus lâcher ma main, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ma main. Je crois que si on se détache de sa main, on se détache de notre emprise sur le monde. De l'emprise, c'est pas une conquête du monde, c'est simplement notre capacité de toucher les objets, l'arbre, le tronc rugueux d'un arbre, la peau d'un bébé, et finalement on devient en distance de la vie elle-même, parce qu'on a passé notre vie à apprendre à nous servir de la main, que ce soit par les leçons d'écriture pour former les lettres. Les moments les plus studieux de notre vie, c'est quand on prenait des leçons d'écriture pour former les lettres, qui est un art aussi chez certains peuples, la calligraphie, les idéogrammes, et c'est un art extrêmement difficile qui prend des années et que nous entrons dans le monde par cet art et de la calligraphie. Et puis, brusquement, depuis une trentaine d'années, nous avons jeté tout ça par terre pour prendre un petit appareil métallique et puis nous servir d'un seul doigt, de la pointe d'un doigt. Et je crois que ce détachement de la main, cette façon de rendre inutile le plus vieil outil de l'homme, la main, et aura des conséquences sur notre façon d'appréhender le monde. De manière abstraite, de manière invisible, cette appréhension. Mais si nous sommes devenons des êtres sans main, comment allons-nous faire?
En tout cas, vous retrouvez le sens du travail manuel, parce que votre livre, c'est un objet d'art et d'artisanat en même temps. Hein.
Oui, je pense qu'on touche. On touche, c'est pas...
On ne pourrait pas le lire sur tablette, je veux dire, c'est pas possible.
Non.
C'est un objet qu'on doit tenir dans la main.
Non, et on ne peut pas le faire non plus sur tablette. On ne peut pas le faire. Et si on commence à faire des livres pareils sur tablette, d'abord ce sera une imitation. Et les peintures, les tableaux atteindront immédiatement une sorte de fausse perfection. Parce qu'on trouvera les meilleures images pour mettre, c'est pas... Mais la question n'est pas là. La question n'est pas de faire les meilleurs dessins, de mettre les meilleures images. La question est comment moi je parviens à exprimer mes émotions avec mes capacités, avec mes compétences au moment où je fais ces dessins. Et comment, brusquement, j'ai goût de faire mieux et je le fais immédiatement après. Comme cette femme, la tête en bas, qui aide dans ce magnifique poème d'Émile Roumer, puisque le livre est fait aussi avec des poèmes et des tableaux d'Émile Roumer, Marabout de mon cœur.
Alors justement, j'espère que vous accepterez, j'avais très envie que vous nous le... récitiez ou lisiez.
Ah oui, c'est un poème qui date de mon enfance, qui date de beaucoup plus loin. Je crois que le poème, il est né en 1913, mais le poème date peut-être des années 50. Et il a été mis en musique aussi de manière extrêmement jolie. C'est une des vieux fantasmes de l'haïtien de voir le corps de la femme comme un plat. Comme une gourmandise, marabout de mon cœur, au sein de mandarine, tu m'es plus savoureuse que crabe en aubergine, tu es un afiba dedans mon calalou, le dambreuil de mon proie, monté de herbes à clous, tu es le bœuf salé dont mon cœur est la croine, l'acassant au sirop qui coule dans ma gargane. Tu es le plat fumant, dion avec du riz, des acras croustillants et des tasards bien frits. Ma fringale d'amour, te suis où tu ailles. Ta fesse est un bumba chargé de victuailles. Un bumba, c'est comme une pirogue. Alors ce poème l'a rendu célèbre. Tous les groupes musicaux ont fait des chansons avec des interprétations de Marabout de mon cœur. J'ai mis ces poèmes-là parce qu'à chacun de ces poèmes, il y a une phrase très, très émouvante et très simple. Pour lui, pour ce poème, j'ai dit simplement « Marabout de mon cœur l'a rendu célèbre ». Et ça paraît banal dans ce temps où on parle de stars, de vedettes, de célébrités, mais imaginez tout ce qu'on a pu écrire et tout ce que lui a pu écrire. Et là, il y a un jour où il a tracé ses lignes, a écrit ce poème, et ce poème l'a rendu célèbre, jusqu'à maintenant. Je suis toujours ému par ce moment où il y a une adéquation totale entre ce que quelqu'un a fait un jour et cette...
Et la façon dont c'est reçu.
De la façon dont c'est reçu, par tous les cœurs, comme ça, carrément.
Mais incontestablement, il a touché quelque chose. Et ce qui est touchant aussi, on le ressent à travers les différents poèmes que vous nous livrez et les textes, mais encore plus particulièrement lorsque vous reproduisez de votre main les peintres primitifs haïtiens, on a l'impression d'une mise en abîme, parce qu'on ressent, en tout cas, je ne sais pas si c'est vrai, que ces peintres sont devenus des peintres professionnels, mais qu'en réalité, avant tout... Ils étaient des peintres, j'allais dire, non pas des peintres du dimanche, des peintres quotidiens. Des gens qui mettent l'art dans leur vie, non pas d'une façon savante ou en l'observant, mais en le pratiquant.
Ah mais totalement, non, ils ne sont jamais devenus professionnels, ils sont devenus célèbres. Ils parcourent les musées, c'est-à-dire leurs œuvres, mais par exemple Rigaud Benoît ou Jasmin Joseph, qui sont des peintres qu'on voit partout, mais eux, ils sont toujours à la même place, ils prennent leur café le matin au centre d'art de Port-au-Prince. L'un est très, très grand, avec un petit chapeau sur la tête. C'est le premier qui, je crois, au début des années 50, vers la fin des années 40, a apporté un tableau au centre d'art, à l'ouverture du centre d'art de Port-au-Prince. C'était chauffeur de taxi, le tableau. Il était lui-même chauffeur de taxi. C'était un autoportrait. C'est un homme très orgueilleux, un peu vaniteux. Il m'avait montré un jour, je crois, vers 1970, un de ses tableaux. C'était... Et mariage de l'employé de mairie, et où on montrait tout le monde en train de danser. Et je lui ai demandé quel est le sens de ce tableau. Il m'a dit c'était pour apprendre à la jeunesse à danser. Donc il a confié beaucoup de choses à son tableau. Et tandis que l'autre, Jasmin Joseph, est un homme très doux, visage rond, et qui a d'une humilité, d'une modestie incroyable, et qui voit le monde comme si c'était une sorte de grande cour, et la société des hommes était une société de lapins. Tout est lapin, lapin que des lapins. Et ces deux-là sont des amis, et il y avait aussi d'autres peintres, hein, Castrabasile, qui travaillait au centre d'art, qui balayait, et qui a changé le balai pour un pinceau, qui est devenu un des grands peintres, et qui n'a jamais changé. Et Robert Saint-Brice, que j'ai bien connu aussi, qui habitait dans un des quartiers les plus pauvres de Port-au-Prince, le Carrefour, et vers le sud, et qui n'a jamais changé lui aussi, et qui est un peintre et qui a séduit fortement André Malraux quand il était venu en Haïti. Donc tous ces peintres-là ne sont jamais devenus professionnels, et parce qu'ils ont gardé cette capacité d'appréhender le monde, de le toucher avec leurs mains, et de garder aussi ce sens de l'émerveillement.
On sent que vous avez pris plaisir à reproduire certaines de leurs œuvres, non ?
Avec grand plaisir, parce que j'ai eu la joie qu'ils ont eue, j'ai reproduit ça. Ce sont des peintres primitifs, mais je suis beaucoup, encore plus naïf qu'eux. Et donc, je les reproduis avec toute cette gaieté et de l'enfance, et ce goût, ces couleurs, et en me disant comment des gens qui ont eu des vies extrêmement difficiles, sous la dictature de Duvalier, dès Duvalier, dans des conditions de misère extrême, et ont pu créer une œuvre aussi complètement joyeuse. Il n'y a presque pas chez Jasmin Joseph une œuvre qui soit malheureuse. Et Salna Philippe Auguste n'a peint que des jungles, et tout est toujours florissant, et tout est toujours les arbres, les fruits, ploie sous les fruits sont toujours mûrs, juteux, charnus, et alors que dehors, c'est la misère.
Est-ce que c'est vraiment un paradoxe ?
Non, je crois qu'ils sont à l'intérieur comme cela. Je crois que nous sommes aveugles de ne voir qu'une forme de richesse, que la richesse est visible et matérielle. Et hier, je regardais un film sur Haïti, et le narrateur n'arrêtait pas de dire que c'est le pays le plus pauvre de la planète, tout en nous montrant autre chose. Une richesse d'ailleurs et des fruits, et puis ensuite une richesse intérieure, parce que le documentaire était sur le vaudou. Une richesse extrême et très profonde, avec plusieurs plans et des arrière-plans. Et on sent des mondes, et comme on dit en Haïti, il y a des montagnes derrière les montagnes, il y a des mondes par-delà les mondes. Ça fait une richesse.
De votre côté, précisons-le, les questions politiques sont quasiment absentes du livre. Il y a un seul moment où vous rappelez quand même que le dindon ressemble au tonton Macoute parce qu'il est méfiant.
Oui, tout à fait. Mais c'est parce que aussi les tontons Macoute, la dictature en a fait son oiseau emblématique, pauvre dindon. Il méritait mieux. C'est la pintade, en fait. C'était la pintade. Mais ce qui est curieux, mais je crois que c'était pour cette méfiance même, d'ailleurs. Mais la politique, vous savez, elle occupe une place importante. Beaucoup d'écrivains en parlent, des peintres exposent un peu les méfaits des dictateurs. Et je me suis dit, il n'y a pas que ça en Haïti. Et notre intimité, et notre vie, et sans cela, et qui va en être le chantre si nous ne faisons que donner de l'importance à la dictature? Il faut lui donner son importance, mais pas toute l'importance. Sinon, on va oublier la mémoire, disons, artistique, va oublier et la réalité du monde tel que nous le vivons. C'est-à-dire, les enfants ne pourront plus se remémorer une nature, une vie possible, une vie rêvée. On va être toujours dans la vie réelle, difficile, outrageante même. Et je crois qu'il faut quand même qu'une mémoire dise comment on a été si bien quand nous n'avions pas de dictateur. Sinon, qui va rêver de ce moment-là? On va croire, les jeunes gens vont croire que c'est la nature des choses. Et c'est ça que le dictateur veut, qu'on croit qu'il est naturel.
Oui, l'intimité, c'est le dernier territoire qu'on peut sanctuariser face à une entreprise de type totalitaire, en tout cas, de représenter la totalité. Oui. Si on préserve son intimité, eh bien...
Absolument, et c'est le drame du dictateur, vous savez. Le dictateur, ça ne l'intéresse pas que vous soyez pour lui ou contre lui. Ce qui l'empêche de dormir, c'est que vous ne soyez pas avec lui. Et il ne cesse de vouloir vous avoir comme ennemi ou ami parce qu'il veut être le centre de vos préoccupations. Mais si vous faites un saut de côté, et ça, il ne peut pas l'accepter.
De côté ou à l'intérieur?
Oui, à l'intérieur dans ce cas-là, dans le cas de ce livre.
Bon, en l'occurrence, néanmoins, la politique à votre corps défendant, quoique, vous a rattrapé puisque vous avez été forcé de partir d'Haïti, oui, pour échapper à un assassinat. Et donc ça m'oblige à revenir sur l'aspect géographique de l'exil, après l'exil intérieur, et vous voilà parti donc pour...
Qu'on appelle un exil, mais c'est le dictateur qui le nomme ainsi. Le dictateur dit qu'envoyer un jeune homme hors de son pays, c'est un exil, c'est une punition. Moi je dis que c'est un voyage, c'est une récréation. Et il ne faut pas se laisser nommer par les autres, c'est ce que j'apprends à la commission du dictionnaire les jeudis. Il ne faut pas, et c'est Montaigne qui disait cela si bien d'ailleurs, que les questions politiques sont souvent des questions de grammaire. Et le dictateur peut bien l'appeler exil pour me punir, mais comme moi j'ai tendance à voyager, c'était un acte naturel pour moi que ce premier voyage, et nous voilà à Miami.
Dans Miami, on change totalement de style.
Oui.
Pour les dessins, en tout cas, on change totalement.
Même pour l'écriture, voilà. Il y a quelque chose de plus serré.
Oui. Il y a une vraie rupture, effectivement. C'est beaucoup plus resserré, un peu plus étouffant, beaucoup moins coloré. Alors, je ne sais pas, Miami, pourtant, moi, je voyais ça comme une ville assez colorée aussi.
Mais oui, non, c'est coloré, mais Haïti, c'est très coloré.
Oui.
C'est coloré, mais il n'y a pas autant de peintres. Et c'est coloré aussi, mais je n'y étais pas pour colorier Miami. J'étais pour écrire des romans.
Le grand roman américain.
Pour écrire le grand roman américain, oui, c'était cela.
Alors c'est une catégorie, le grand roman américain,
c'est votre
projet?
Non, c'est une catégorie, comme en France, et pendant tout le XXe siècle et bien avant surtout, même, il y a toujours l'idée, le grand écrivain. En France, c'est le grand écrivain. Oui. Aux États-Unis, c'est le grand roman.
D'accord.
C'est le grand roman. Ce grand roman-là que beaucoup d'écrivains américains voudraient écrire, il y a une légère ironie dans ce que je dis. Et c'est un grand roman vaste, genre Gary Pei par le nombre de pages, et qui parle de New York, Dos Passos l'a tenté avec Manhattan Transfer, ou bien ses romans. Donc, il y a toujours un écrivain qui veut bien. Mais je me dis qu'ils se sont trompés. Parce que les Américains ne peuvent pas écrire le grand roman américain. Parce qu'ils sont trop sédentaires. Le grand roman américain, il y a plus de chances qu'il vienne de la Caraïbe. parce qu'on a connu d'abord tout ce que la colonisation, où il y a eu par exemple à Saint-Domingue en Haïti, les Anglais, les Français, les Espagnols, puis on a connu la dictature, ensuite l'exil, c'est-à-dire partir de chez soi, et de cette langue créole, aller à Montréal, le français, ensuite à New York, l'anglais, et ensuite descendre en Amérique latine, et l'espagnol, et Mexico, aller à Buenos Aires, où était mon père. Donc, pour moi, avoir le goût, avoir la possibilité, parce que d'écrire ce grand roman américain, il faut connaître l'Amérique. Et il ne s'agit pas d'écrire un gros roman américain. Il s'agit d'écrire un roman où traverse les langues, et traversé par des langues comme le créole, le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais, traversé par des cultures et des gens qui regardent ces cultures-là vues de bas. On ne peut pas écrire un grand livre vu de haut.
Oui, sinon c'est un traité de sociologie.
C'est ça, vu de bas, des gens qui commencent, comme moi je me disais à l'époque, qui commencent par être ouvriers. Parce que quand vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas et que vous êtes au plus bas de l'échelle, vous avez une possibilité extraordinaire d'observation. Et puis ensuite, vous devez apprendre sans professeur. Il n'y a personne qui vous dira comment faire. Donc chaque petite chose que vous comprenez de la société, ce n'est pas un combat personnel, ce n'est pas une observation personnelle. C'était ça à l'époque de Jack London, le roman. C'était ça à l'époque de tous ces écrivains anglais qui se faisaient marins. C'était ça à l'époque des écrivains aussi africains qui traversaient les brousses pour en rendre compte. C'est-à-dire cette façon très physique d'appréhender le monde. Ce n'est pas le monde qui vous est donné de par votre statut, de par votre puissance. C'est pas le monde, c'est le monde que vous avez appris à la dure. C'était ça l'idée. C'était pas que je voulais écrire le grand roman américain, c'était une façon de signaler et aux Américains, c'est la Bible qui le dit, hein. Il est plus facile à un chameau de passer dans le jet d'une aiguille et dans le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au paradis. C'est exactement cela. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas le faire si vous croyez que le grand roman, d'abord, c'est un gros roman. Le grand roman américain, c'est-à-dire du continent, peut faire 150 pages. Par exemple, je trouve beaucoup plus que les romans américains, un roman comme Pedro Páramo de Juan Rulfo. Et c'est un extraordinaire roman, l'un des plus grands, c'est-à-dire Marquez vient de là, Cent ans de solitude, Cortázar vient de là, assurément, Borges, qui lève le nez souvent sur les écrivains sud-américains, a dit que c'est un laconique chef-d'œuvre, Fuentes vient de là, il l'a dit lui-même, et tous les écrivains américains qui comptent, Mario Vargas Llosa, tous viennent de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. C'est peut-être ça le grand roman américain. Mais aller montrer à un Norman Mailer et aux adhérents du Gros, et aller montrer à ces écrivains qui prennent de l'ampleur, qui croient que la dimension compte, qu'un grand roman américain puisse faire 150 petites pages, et ils ne vont pas vous croire. Mais c'est une fenêtre qui donne sur l'immensité.
La méthode, elle est donc sensorielle, une fois de plus.
Oui, oui. Oui, il faut sentir. Parce que ça élargit. C'est pas à nous d'être gros, d'être grand. C'est en regardant et par la fenêtre pour voir précisément l'immensité des choses. Et quelqu'un qui habite dans un petit appartement coincé, fermé, en plein milieu de Paris, mais qui a le sens de la fenêtre, qui ouvre la fenêtre et regarde le ciel et qui regarde l'espace, n'a qu'à faire entrer Paris dans sa chambre.
Et le grand roman français, alors, c'est pour quand ?
Je crois qu'il n'y a pas eu de cela. Et je dirais comme Gide... Hélas, Hugo, il n'y a pas eu de cette tentative du grand roman français. Et c'est le grand écrivain et le grand esprit. Et tout est basé sur le grand esprit. C'est Voltaire, c'est plutôt des saillies. Et la France a privilégié la conversation et aussi la saillie, l'ironie. c'est un peu, c'est, on est plus prêt à retenir, par exemple, hein, et la phrase, la formule de Mauriac à la mort de Cocteau, je ne croyais pas capable d'un acte aussi naturel. Ou encore, je crois que c'est Tristan Bernard parlant de Gide, la nature a horreur du Gide. Donc c'est ça plutôt la France. Mais vous faites des phrases comme ça aux États-Unis, on ne vous entend pas. Mais en France, c'est ça.
Alors justement, vous avez cité Hugo, il y a un débat en ce moment, Hugo ou Stendhal, comme grand écrivain.
C'est, bon, c'est la littérature française, ce genre de débat n'a aucune espèce d'importance. La phrase, la réponse est simple, je prends les deux. Pourquoi pas? Pourquoi choisir? Je ne sais pas d'où vient cette manie de choisir. C'est une vieille manie de catalogue, de hiérarchie, de choses. Et c'est selon mon humeur. Selon mon humeur. C'est Hugo, c'est vaste. Hein. C'est vaste. Et ça comprend des petites chansons très légères jusqu'aux contemplations, jusqu'au misérable même, et qui est un immense poème. Donc c'est vaste, c'est Stendhal aussi. C'est... Donc je prends tout, je prends la bibliothèque. Et avec quelque chose, un animal qui est rare dans la bibliothèque française, qui est une bibliothèque un peu trop sélective, qui est le roman, l'écrivain moyen. Et qui, moi j'aime bien faire l'éloge de l'écrivain moyen, qui est très, il y en a beaucoup, et il nous ressemble un peu plus que Hugo, et souvent on s'en fait un ami, et je crois que souvent dans la littérature on oublie de parler de l'amitié, et de l'affection, et à trop lire des gens qu'on admire, on finit par perdre ce sentiment d'égalité et qu'ont les enfants entre eux, quand ils sont entre eux, enfin délivrés des adultes. Et c'est un sentiment qui est fascinant à regarder quand je vois les enfants comme ça en train de jouer. Il n'y a personne qui dit à l'autre comment faire, il n'y a personne qui dit à l'autre ce qu'il faut faire, ce qui est bien, ce qui est mal. Et tout le monde est libéré de cette contrainte sociale. Et c'est ça. Et aussi, l'écrivain moyen, il nous permet de le lire sans contrainte sociale. Et même parfois de fermer momentanément le livre en se disant... je pourrais faire mieux. C'est pas insultant pour l'écrivain, c'est une forme de camaraderie.
On sent une telle aisance dans votre façon de façonner, je vois pas d'autre mot, de tels ouvrages, qu'on a peine à croire que vous vous posez ce type de questions. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que ce sera bien? Est-ce que ça va aboutir?
Non. Au contraire, je rentre de plus en plus dans cette écriture nue Christopher Isherwood a cette phrase qui m'habite. Il dit « Ma vie est devenue si simple qu'elle ne concerne que moi. » J'espère vivre assez longtemps pour pouvoir la dire moi-même. Et j'y vais de ce pas-là avec ces livres écrits à la main. Et dessiné, de plus en plus, je remonte vers l'enfance. L'endroit où il n'y a pas de censeur. Ni d'ascenseur pour faire.
Vous disiez aller vers ce moment où la vie ne concerne que vous, mais nous sommes très heureux que vous nous la partagiez néanmoins, car comme souvent, lorsqu'on traite de choses particulières avec sincérité, finalement, c'est là qu'on finit par trouver l'universel.
Oui, bien sûr, ce « moi-là » ne veut pas dire « mon nombril ». C'est-à-dire que je ne peux que vous faire des offrandes, et c'est-à-dire offrir comme un enfant qui vous offre, comme mon petit-fils qui m'a offert l'autre jour quelque chose qu'elle a déjà mâché longuement dans sa bouche. Et voilà, c'est sa matière qu'elle m'a offert. Et qu'il m'a offert, il ne peut m'offrir que cela, sa matière. Donc c'est ça que j'espère un jour pouvoir offrir, un aliment longuement mâchonné, mastiqué, que vous ne pourrez pas refuser.
Écoutez, nous n'avons aucunement l'intention de refuser celui-ci. Et c'est une des autres raisons pour lesquelles le charme opère, car c'est un livre plein de générosité. On sent que c'est une sorte d'offrande, presque à la luxuriance de la nature, à la beauté, tout simplement, mais aussi une offrande voilà, à vos semblables humains pour qu'ils puissent se régénérer et trouver un contrepoint fructueux et fécond en se plongeant dans votre propre trajectoire. C'est aussi le livre d'une trajectoire et d'une sensibilité à laquelle on peut se frotter. Donc merci beaucoup, et pour que cette rencontre soit possible, nous sommes heureux d'y contribuer. Je rappelle les références de l'ouvrage. Il s'agit donc de « Vers d'autres rives » par Dany Laferrière de l'Académie française, aux éditions de l'Aube, et c'est publié aussi avec, je crois, le magazine Le 1.
Merci.
Merci beaucoup. Thank you.